9h, 10h, le Book Club. Votre rendez-vous avec l'actualité littéraire avec Philippe Robichon et Wissem Satoury sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres, de ceux qui les écrivent et de ceux qui les lisent. Bonjour Wissem.
Bonjour Philippe.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Bah écoutez, formidablement bien, c'est le week-end.
Bien, vous avez appris une nouvelle phrase qui permet de vous préparer et de vous préparer la mâchoire avant des émissions.
C'est ça, c'est
Est-ce que vous pouvez illustrer un petit peu ce que je dis?
Alors,
pour votre public qui vous aime.
Tout à fait. C'est un chasseur sachant chasser,
ouais,
doit savoir chasser sans son chien.
Vous êtes pas mal, vous êtes fluide. Ce qui est bien, c'est cette fluidité.
C'est ça. Il y a quelque chose, si tu veux, qui nous rappelle ce mouvement de la musique qui est la techno, qui va et qui s'arrête. C'est presque du dubstep. Mais bon, on va pas en parler. On n'est pas une émission musicale, Philippe.
Non, et heureusement. Notre invité aujourd'hui s'appelle Vincent Message. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Beurre FM. Et Wissem va dresser votre portrait.
Alors, Vincent Message, à peine la trentaine, professeur de lettres à Paris 8, est déjà auteur de deux romans à succès. Le premier, signé à l'âge de 26 ans seulement, L'Éveilleur. Le second, dont nous parlons aujourd'hui, Maître et Possesseur. Empreint d'un idéal de gauche, postmoderne, écologique, végétarien presque, pour exagérer un peu. Non, plus sérieusement, Maître et Possesseur est écrit d'une main de maître, décrivant comme Hugo dans un genre à la croisée du thriller et de la fiction orwellienne. Vous nous racontez une terre où l'homme réalise son plus grand rêve, celui de rencontrer une espèce extraterrestre, sauf que ce rêve se transforme très vite en cauchemar lorsque l'on s'aperçoit que ces extraterrestres sont à peu de choses près comme nous. Ils découvrent notre planète comme si nous la découvrions et réagissent à notre contact comme si nous avions réagi à nous-mêmes. Cette espèce qui nous colonise est en réalité notre propre miroir, le miroir de notre humanité si pétrie de certitudes et d'une éthique prompte à juger l'autre et à se sentir inéluctablement supérieur au reste du monde grâce à ses jugements sur le monde, ses jugements raisonnables entre guillemets. Un esprit qui, une fois rencontré son propre maître, se fait posséder sans échappatoire. Maître et Possesseur, votre nouveau livre, signé au Seuil, c'est ça?
Aux éditions du Seuil. Pourquoi vous dites qu'il y a un esprit de gauche? J'ai pas compris, Wissem.
Eh bien,
En quoi est-ce que vous trouvez que c'est un livre de gauche?
Si vous voulez, ce livre existe dans un espace postmoderne non défini, dans le temps, mais qui à la fois regroupe toutes les problématiques liées à l'indépendance des peuples, l'égalité entre les peuples, la colonisation, la décolonisation, l'humanisme de gauche, on le retrouve profondément inscrit dans cet ouvrage. Et j'ai trouvé que c'était réalisé vraiment avec une maîtrise et une finesse qui laisse passer des messages sans forcément appuyer, mais qui quand même sait faire passer des messages sur notre histoire en tant que peuple.
D'accord avec ça, dans son message?
Oui, je suis d'accord pour dire que c'est un livre de gauche, au sens où c'est un livre qui remet en cause les hiérarchies qu'on institue entre les vivants, l'idée que l'humanité se sente infiniment supérieure à toutes les autres espèces animales, alors même qu'en fait on dépend des mêmes règles, on vit dans les mêmes écosystèmes, on dépend des mêmes ressources, et que donc le processus par lequel, au fil des siècles, on a décidé d'être l'exception et de se couper des autres espèces, de se placer en haut de la chaîne alimentaire, de les assujettir, de les manger, d'en devenir les super prédateurs, et un mouvement de domination. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment les dominations s'articulent les unes aux autres, et d'en faire la critique. La domination de l'homme sur les animaux, la domination de certains hommes sur d'autres. Donc, il y a évidemment quelque chose de la pensée de gauche là-dedans.
Dans votre livre, finalement, l'homme n'est plus au bout de la chaîne.
L'homme,
comme il l'est aujourd'hui, en fait.
Oui, l'idée, c'est que donc une autre espèce arrive, d'autres régions de l'espace. Ils cherchent un havre, en fait, de paix pour vivre, pour s'installer, puisqu'ils ont dû épuiser les ressources de là d'où ils venaient. Et ils constatent qu'ils ne peuvent pas vraiment cohabiter avec nous parce que nous avons une gestion assez irresponsable de notre environnement. Nous épuisons les ressources. Et que donc, s'ils veulent pouvoir s'installer, il faut commencer par nous dessaisir de nos fonctions. C'est pour ça que ça s'appelle défaite des maîtres et possesseurs.
D'accord.
Et donc, nous ne sommes plus les maîtres et possesseurs de la nature dans ce livre. Nous sommes assujettis avec plusieurs cas de figure. On connaît les sorts que connaissent dans notre monde les animaux. Il y a humains qui font du travail, qui travaillent pour les nouveaux maîtres. Il y a des humains qui essayent de leur servir d'hommes de compagnie, d'hommes et de femmes de compagnie. Et puis, il y a ceux qui sont élevés de manière industrielle.
Ça, c'est les humains d'élevage. Hein.
Les humains d'élevage.
Ils vont être mangés.
Les animaux d'élevage, exactement.
Je vous conseille la page gastronomique où vous racontez comment c'est bon de manger de l'humain.
Bah, il n'y a pas de raison.
Surtout au niveau des côtes.
Le gigot, oui. Moi, je pense que le gigot humain est sans doute, quand les humains sont bien engraissés, tout aussi savoureux que le gigot d'agneau ou que le gigot de...
Parce que vous les faites engraisser comme nous, on engraisse les animaux. Wissem, vous dites que ces nouveaux... Alors, je ne sais pas comment... S'ils sont des hommes, ceux qui viennent sur la Terre, ressemblent aux hommes. Mais on ne sait pas finalement à quoi ils ressemblent. Vous n'en donnez pas une description très détaillée.
Non, c'est tout à fait volontaire. Je veux laisser ça à l'imagination du lecteur. Visiblement, ils ont quand même un corps, une forme globale qui n'est pas très loin de la nôtre. Mais ensuite, je ne voulais pas donner trop d'éléments là-dessus parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est justement la variété des formes qu'ils vont prendre dans la tête des lecteurs. Et que par ailleurs... Donc il y a une sorte de prémisse science-fictionnelle dans le livre, puisqu'il y a cette arrivée d'extraterrestres. Et en même temps, moi, je trouve toujours ça un peu kitsch, la science-fiction. Donc pour moi, c'est pas un livre de science-fiction. C'est plutôt une fable politique, ou ce qu'on appelle parfois une dystopie, c'est-à-dire une utopie, mais cauchemardesque, dans des couleurs noires. Et précisément parce que souvent, la représentation d'êtres qui arrivent d'autres régions de l'espace a ce quelque chose de kitsch quand elle est trop détaillée. Moi, je voulais jouer la carte de la sobriété. Et donc...
À chacun d'y imaginer, voilà, de leur donner le visage qui conviendra.
Il y a des petits indices de temps en temps, mais ça fait partie, visiblement, d'après les premiers retours que j'ai, des joies des lecteurs.
Bon, quatre cartilages au niveau du nez. Comptez vos cartilages du nez.
Par exemple.
ça vous donne une idée. C'est-à-dire qu'en fait, ces nouveaux hommes, donc, ils nous ont observés avant, quand même, hein. Un petit moment, ils se sont. Ça me fait penser à une série qui s'appelait Les Envahisseurs. On est les Envahisseurs. Ils sont parmi nous.
C'est ça.
On les reconnaissait au doigt, en fait. Hein. Ils avaient un petit doigt qui. Vous connaissez, Vincent?
Ouais, j'en connais la parodie par Les Inconnus aussi, qui est assez drôle.
Ah oui, d'accord.
Je peux pas le pas connaître, puisque le refrain, c'est Bonjour, Monsieur Vincent.
Voilà, David Vincent les a vus. Vous vous posez des questions d'aujourd'hui que nous devrions nous poser aujourd'hui et vous les transposez à une époque qui n'est pas la nôtre. Pourquoi?
Parce que je pense qu'il y a quelque chose de fertile dans ce détour. J'ai le sentiment de parler du présent. Simple, c'est pas tellement que je parle de l'avenir, c'est juste que je prends le présent et que je change les rôles.
Mais pourquoi finalement ne pas parler du présent au présent?
Parce que dans notre présent, nous sommes dominants et donc nous avons du mal à nous mettre à la place des animaux. La preuve, c'est qu'on en abat 65 milliards par an sur Terre et qu'on en pêche 1000 milliards dans les mers. Et que c'est une question qui indiffère la grande majorité des gens.
C'est un livre très, très digressif, puisque vous êtes vraiment dans la transgression. Vous apportez des idées nouvelles dans ce livre. Des idées qui sont encore en train d'émerger dans la conscience de la population. Comme le fait que voilà, les animaux sont des corps sensibles, donc finalement nous sommes tous pareils. Et donc nous aurions les mêmes droits, ce qui laisse penser certains penseurs que par exemple un maître chien bien éduqué aurait plus de valeur qu'un enfant trisomique.
Alors je dirais pas qu'on a les mêmes droits, mais en tout cas ce qui est sûr, avant de revenir à ça, c'est que pour moi on est des êtres empathiques, mais assez souvent notre empathie est empêchée. Elle est empêchée par la distance, ça on le sait, c'est-à-dire que les nouvelles du bout du monde, même s'il y a beaucoup de morts, eh ben elles nous touchent moins que si ça se passe au coin de la rue. Bon, ça,
c'est ce qu'on appelle la règle du mort-kilomètre,
voilà,
en journalisme. Voilà.
Et il y a aussi...
La première leçon qu'on apprend.
Oui, c'est important en journalisme, c'est important pour penser l'actualité politique, mais ça vaut aussi avec la barrière entre les espèces, c'est-à-dire que on n'a pas de plus grande crainte, nous les hommes, que d'être mangés. C'est vraiment un fantasme de cauchemar. Hein. Et il y a la figure de l'ogre. On est éduqué avec la figure de l'ogre quand on est un enfant. Développer des ruses pour ne pas se faire manger. Et en même temps, ça fait partie de notre hédonisme quotidien que de manger des animaux tous les jours. Et jamais on ne se met à leur place. Donc, je parle du présent, j'inverse les rôles. Pour attirer l'attention sur le fait que les animaux aussi ont des vies qu'on interrompt brutalement, généralement sans leur laisser vivre même le quart ou le tiers de leur vie normale. et qu'il devrait du coup avoir des droits. Alors pas forcément les mêmes que les nôtres, parce que les différences entre les hommes et les animaux, elles sont pas niables. Nous pouvons voter, nous pouvons former des parlements, oui. Nous pouvons
vivre en société complexe.
Voilà, nous développons l'art, nous développons un urbanisme, etc. Toutes choses qu'ils ne font pas. Mais néanmoins, il y a des droits un peu simples qu'ils devraient avoir.
Le livre pose la question de l'espèce humaine est-elle une espèce à part ? Et dans le livre, finalement, vous dites que finalement l'espèce humaine n'est pas une espèce à part.
Disons que si l'espèce humaine se pense trop à part, si elle creuse trop le fossé avec les autres espèces, elle se met elle-même en danger. Elle se met en danger de devenir ce qu'on appelle inhumaine. Parce qu'elle se met à détruire son environnement du coup à grande vitesse, comme si elle pouvait s'exempter de cet environnement, se placer hors sol en quelque sorte, alors qu'on sait que ça n'est pas le cas et que ça va nous revenir sur la figure assez vite et que c'est déjà en train de se produire. On vit dans une époque qui est celle de la sixième extinction massive des espèces. La dernière, elle date des oui. dinosaures. Et cette fois-ci, c'est notre faute. C'est-à-dire, c'est nous qui détruisons les habitats des animaux. C'est nous qui, avec l'acidification des océans, ouais. le réchauffement climatique, tuons le vivant à grande vitesse. Évidemment, on fait partie du vivant. Et donc, au bout d'un moment, ce qu'on va rendre invivable, c'est la Terre pour nous et pas seulement la Terre pour les autres animaux. Donc, effectivement, je pense que il existe un écart entre l'homme et les autres espèces animales, mais il ne faut pas l'exagérer. Il faut au contraire le mesurer de façon très fine, très juste. Sinon, c'est nous-mêmes qui nous mettons en danger.
Donc, en fait, c'est ce qui pourrait nous arriver si on ne fait pas attention, finalement.
Pour parler un peu de l'intrigue, le personnage principal s'appelle Maloclès, et donc lui, il fait partie de cette nouvelle espèce.
Deuxième génération d'ailleurs.
Deuxième génération.
C'est un enfant de la deuxième génération.
Exactement.
Parce que c'est ses parents qui sont arrivés, voilà.
Voilà. Et il est lui-même à l'heure d'une prise de conscience. De cette prise de conscience du « maintenant nous devons faire plus attention ». C'est-à-dire que quand il est arrivé, il faisait partie d'une espèce qui a un sens de l'adaptation à l'environnement. Donc ils se sont un peu glissés dans nos pas. Ils ont pris un certain nombre de nos habitudes parce qu'ils ne voulaient pas tout détruire pour tout reconstruire. Et puis comme il vit avec une jeune femme humaine qui s'appelle Iris, qui a eu un accident de voiture et qui est menacée, il faut qu'elle soit opérée pour qu'elle puisse être sauvée puisqu'elle est mal en point. Il se rend compte que protéger les faibles n'est pas du tout la priorité dans son monde. Or lui, comme il a un lien d'affection très fort avec cette femme, il a envie de la protéger. Et c'est cet événement de sa vie personnelle qui lui fait prendre conscience plus largement que dans la domination très massive et tranquille que son espèce a établie sur les autres, elle se trompe. Et que le consensus qui existe dans sa société sur le fait que dominer soit une chose naturelle est malsain, est dangereux et qu'il faut se mettre à le remettre en cause. Donc, ce que je retrace, c'est l'histoire de sa prise de conscience à l'occasion d'une crise personnelle. Et évidemment, derrière, c'est une manière de parler aussi de la prise de conscience qui est en train de se produire chez nous aussi, mais peut-être trop lentement. Et
trop lentement. Voilà, et le temps passe. Vincent Message est notre invité ce matin. Il est invité du Book Club jusqu'à 10h.
Le Book Club, votre rendez-vous avec l'actualité littéraire sur Beurre FM.
Sur Beurre FM.
Le Book Club, votre rendez-vous avec l'actualité littéraire avec Philippe Robichon et Wissem Satouri sur Beurre FM.
Et c'est Vincent Message, qui est, je sais pas pourquoi je voulais faire une contrepétrie, mais non, c'est bien Message que vous appelez, votre deuxième roman vient de sortir, ça s'appelle Défaite des maîtres et possesseurs aux éditions du Seuil, et sur la pochette il y a écrit roman. Vous, si vous deviez définir votre livre, à quel genre est-ce qu'il appartient? Est-ce que c'est vraiment un roman?
Ah oui, c'est très clairement un roman, j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Après, à quel genre, au sein du roman, qui est un genre très très vaste, c'est un peu plus compliqué. Je pense que moi j'aime bien jouer avec les codes de différents genres. Mon premier roman, Les Veilleurs, tenait du roman policier.
Là, c'est un thriller en fait.
Il y a du thriller aussi dans Défaite des maîtres et possesseurs, au sens où Maloclès, mon héros, est engagé dans un compte à rebours pour sauver cette femme, et pour ça, il doit prendre des risques dans sa vie personnelle.
Il a 24 heures pour lui trouver des papiers en fait.
24, c'est un peu sous-estimé, mais il a très peu de temps. Le roman se déroule sur quelques jours, donc ça raconte bien une crise. Et cette crise est chronométrée, presque. Mais ça joue aussi avec le genre plus ancien du conte philosophique tel qu'on pouvait le trouver au 18e chez Voltaire ou en Angleterre chez Swift, les voyages de Gulliver, etc. C'est des choses qu'on lit peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, ce qu'ils voulaient faire, ces écrivains-là, c'était bien prendre du recul par rapport à leur société, qui étaient les sociétés qui commençaient à coloniser, etc. Et voir avec beaucoup de distance, en imaginant de temps en temps que des gens arrivent d'autres planètes et les observent la société de l'extérieur, voir quels en sont les travers. Et je fais un petit peu la même chose avec mon narrateur, puisque le fait qu'il ne soit pas humain lui permet de décrire nos usages comme s'il était un anthropologue qui nous découvrait comme une sorte de tribu, et donc avec tout ce qu'on fait de qui nous paraît naturel, mais qui à lui peut lui paraître très étrange.
Alors, vous parliez de transgression tout à l'heure, Wissem, mais il est très transgressif, puisque par exemple, il vit avec ce qu'on appellerait aujourd'hui une sans-papiers, et il aime ça. Il a organisé toute sa disparition.
Plus profondément, dans le livre, il y a un espèce de plaidoyer contre le colonialisme comme on l'a connu dans l'histoire. Et vous décrivez avec beaucoup de style comment est-ce que ces extraterrestres sont d'abord venus avec des bonnes intentions. On se souvient des Européens qui débarquent en Amérique avec toutes les bonnes intentions du monde pour civiliser ce peuple. La controverse de Valladolid, sont-ils humains ou pas? Faut-il les baptiser ou les esclavager? Et finalement, on se rend compte que nous les détruisons parce que nous apportons la maladie avec nous. Et qu'est-ce que vous avez essayé de faire passer comme message à ce moment-là, en reprenant ces thèmes?
D'abord, c'est les récits de la conquête, et en particulier de la conquête des Amériques, sont des récits que je trouve assez fascinants, quelles qu'en soient les reprises. J'ai pas mal lu un écrivain mexicain qui s'appelle Carlos Fuentes, qui en parle beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup le film de Terrence Malick, Le Nouveau Monde, où on voit arriver des bateaux. Et on sait que derrière, il y a eu une sorte de génocide involontaire, mi-volontaire, mi-involontaire, la partie involontaire étant liée à de nouvelles bactéries et de nouvelles maladies introduites par les Espagnols, et ça a fait vraiment des millions de morts. C'est aussi ce qui se passe dans le roman, c'est-à-dire c'est décrit de manière très brève, mais il y a un moment un peu épique où, effectivement, la cohabitation commence entre les hommes et les nouveaux venus. Et les hommes tombent malades parce que les autres amènent des bactéries auxquelles nous ne sommes pas habitués. C'est ça qui leur permet de prendre le contrôle.
Mais c'est sciemment. Là, ils leur inoculent les bactéries pour les conquérir d'une certaine façon.
Ça, c'est pas forcément.
C'est pas forcément
votre interprétation, mais c'est pas forcément aussi clair que ça dans le livre. Il peut y avoir aussi une part involontaire. Mais oui, il y a une critique de la manière dont sont passées les colonisations, puis dans cet écart que vous marquez entre les bonnes intentions et réalité. Et ensuite aussi, et ça me tient assez à cœur, l'incapacité à porter un regard critique sur son histoire coloniale. En France, il y a tout un discours qui s'appelle, c'est la fameuse théorie selon laquelle critiquer sa propre histoire, ce serait être dans la repentance, donc quelque chose de malsain, d'autoflagellatoire, etc. Et mon narrateur dit l'inverse, il dit... On veut tous vivre, on veut tous être. Et donc, les gens qui se critiquent, c'est pas des gens qui sont en train de se meurtrir, c'est des gens qui se sentent assez forts pour résister à la critique.
C'est ça. Ça, c'est très bien dit. Et ça, je pense que c'est un message qui nous parle aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut se critiquer et finalement grandir de ces critiques, ne pas s'accabler nous-mêmes du poids d'avoir colonisé ou parce que nos grands-parents ont tué ou nos arrière-arrière-arrière-grands-parents avaient esclavagé ou on ne sait pas. Cette question-là, moi, je trouve que vous apportez une réponse qui mérite d'être entendue. C'est qu'à un moment donné, on peut se critiquer, on peut faire le point sur ce qui a été fait sans forcément être coupable. Mais ça permet d'avancer. Et aujourd'hui, une grande partie de la classe politique française refuse de s'excuser pour certains crimes de guerre, pour certains génocides. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça mériterait, je pense, cette part d'autocritique.
Moi, je crois qu'on est plus légitime quand on veut critiquer les autres, quand on sait d'abord critiquer soi-même, et qu'il y a quelque chose de vraiment très noble et très fort, en fait, dans la capacité à s'autocritiquer. Je prends par exemple ces images, pour parler de l'histoire politique européenne, de Willy Brandt allant demander pardon pour le génocide, alors que lui-même avait été un résistant allemand, donc pas du tout du côté des nazis.
C'est ça.
Mais au nom de la responsabilité collective des Allemands, il va s'excuser du génocide. Je crois que c'était au ghetto de Varsovie. Ce serait bien que nos hommes politiques aujourd'hui soient capables de cette grandeur-là, parce qu'en réalité, ça les grandit. Et le nationalisme qui consiste à dire que dès qu'on admet qu'on a fait une erreur,
On
est plus légitime, ouais. etc. C'est vraiment un tout petit nationalisme très étriqué qui, moi, me paraît pas du tout susceptible de nous faire avancer collectivement. Et donc, mon narrateur, il écrit, c'est quelqu'un qui écrit,
ouais.
Il cherche à sauver cette femme, mais il cherche aussi, à l'occasion de cette crise personnelle qu'il est en train de traverser,
à porter
un regard critique sur sa propre espèce
et
à aller assez loin là-dedans, effectivement.
Parce qu'à un moment donné, il rencontre ce monsieur qui s'appelle Ostias. Et c'est une de ses premières rencontres avec un ancien de ses maîtres et possesseurs de l'époque. Et il va, en discutant avec lui, développer une espèce de prise de conscience sur ce qu'est l'être humain, finalement. Et vous décrivez, je ne sais pas si vous pouvez revenir, parce que je pense que les auditeurs ont besoin d'entendre ça, cette relation qu'ils ont, qu'a le narrateur et ce monsieur qui est Ostias, cet ancien maître et possesseur. Quelle est l'imbrication, quel est le but de cette interaction qu'il y a entre ces deux personnages?
Oui. Alors, pour resituer le contexte, Malo Claes cherche donc des papiers pour Iris. Et Iris, humaine, donc, est entrée dans un certain nombre de réseaux qui cherchent à résister à la domination qu'ont imposée les nouveaux venus. Et pour cela, elle est entrée en contact notamment avec Léo Ostias, qui est un homme, un ingénieur, qui...
On ne sait pas si c'est un homme.
Si, c'est un homme.
Ah bon ?
Léo Ostias.
Je vous l'assure.
L'ingénieur.
Je sais pas, il a une allure, on ne sait pas à quoi il ressemble.
Ah, on sait que c'est un homme au sens de l'espèce humaine. En revanche, effectivement, on ne sait pas quel est son genre, pardon.
Ah oui.
Il a quelque chose...
Pour moi, il a un genre indéfini, mais bon, après...
Il a quelque chose d'un peu androgyne, vous avez tout à fait raison, c'est un autre aspect. Mais donc, en tout cas, c'est un type qui est clairement dans la résistance à la nouvelle forme d'oppression. Et... ils se rencontrent, donc il y a une sorte de rendez-vous clandestin sous un pont près d'un canal, etc., où ils sont censés parler, et puis il est censé l'aider à fabriquer des papiers pour Iris. Qu'est-ce qu'ils échangent ? Léo Ostias, c'était un ingénieur, il vient d'une famille d'ingénieurs dans le vieux monde. Donc, comme vous le dites, Wissem, il faisait partie des dominants.
Oui.
Il faisait très clairement partie des dominants dans l'ancien régime. Et ces gens-là ont beaucoup plus de mal à vivre le déclassement que les autres. Parce qu'au fond, pour l'essentiel des salariés, ouvriers du capitalisme, et mon roman parle aussi de ça, avoir changé de maître, ça ne change pas grand-chose. La plupart des gens travaillent dans des conditions vraiment difficiles, ont des salaires qui sont minables. En Asie, dans les ateliers du monde, sont quasi esclavagisés, ou dans certains pays d'Afrique aussi. Et à partir de là, que brusquement ce soit plus les 1% de la classe dominante qui dirige, mais des nouveaux venus qui arrivent d'ailleurs, ça ne bouleverse pas fondamentalement les rapports de force. En revanche, pour quelqu'un comme lui qui vient d'une famille où on était habitué à
l'aisance,
le pouvoir, la liberté, là, ça change tout. Donc c'est ça qui lui donne cette capacité de révolte, c'est ce sentiment de lutter contre son propre déclassement. Et puis, il évoque aussi, avec Malo Claes, une réforme que Malo Claes, qui travaille dans un comité d'éthique, est en train de chercher à faire passer pour prolonger la vie des hommes. Et évidemment, c'est toujours la même chose avec les réformes politiques. Pour Léo Ostias, ça ne va pas du tout assez loin, alors que Malo Claes, de son côté, sait que il y a beaucoup d'opposants à cette réforme et qui va déjà avoir du mal à la faire passer. Donc là, ce que je cherche à marquer, c'est quand on cherche à donner des nouveaux droits à une catégorie de gens qui sont faibles, qui sont dominés, qui ont du mal à faire entendre leur voix, et ben faire avancer ces combats est quelque chose de très difficile où on se heurte à beaucoup d'opposition.
Il y a des limites.
Et qui incarne l'opposition d'ailleurs? Alors j'essayais là aussi de savoir qui pourrait. C'est une femme qui lui apporte là notamment la contradiction à l'Assemblée. Mmh. Vous pensiez à quelqu'un? Vous avez quelqu'un dans votre tête quand vous avez pensé à ce personnage ou pas du tout?
Alors il y a un personnage qui s'appelle Martha Vaquet qui, lors d'un débat parlementaire sur cette question de la fin de vie des hommes, dans quelles conditions se déroule la fin de vie des hommes, que ce soit pour les humains d'élevage ou pour les hommes de compagnie et les hommes de force. Ces deux dernières catégories, dans le monde que j'imagine, on les euthanasie à 60 ans.
Et
on considère qu'il y a un phénomène de surpopulation qui fait que c'est plus raisonnable de mettre fin à leur vie à 60 ans.
Et parce qu'après 60 ans, il développe une certaine, enfin des maladies, donc et la prise en charge par la sécurité sociale, ou en tout cas par la société, est relativement...
Ils deviennent à charge, ils deviennent voilà. Les assistés. Et ouais. Donc dans la société très libérale, très violente que j'imagine, on considère qu'on n'a plus les moyens de s'occuper des assistés. Et donc cette opposante, Martha Vaquet, développe tout un discours là-dessus, y compris avec des arguments qu'on peut entendre comme rationnels, hein, c'est-à-dire l'idée que plus on est vieux, plus on souffre, et que donc l'idée qu'on prolonge...
C'est pour abréger les souffrances, voilà.
Il y aurait une générosité à abréger les souffrances des gens. C'est pas un personnage à clé, je pense pas à quelqu'un de précis, mais elle incarne beaucoup de ces positions assez dures, qui, dans nos sociétés très libérales, critiquent les faibles comme étant des gens qui sont à charge. Et moi, ça me paraît une des tendances vraiment dangereuses des sociétés contemporaines. Hein, cette idée qu'il y aurait dans la société des gagnants, mais qui seraient bien à plaindre au fond, parce que c'est eux qui porteraient sur les épaules le reste de la société, et à l'inverse, des laissés pour compte, des exclus, des faibles, dont il faudrait s'occuper. Alors que, on sait que dans les rapports de production, c'est aussi la masse de ces travailleurs-là qui crée la richesse.
Bien, votre deuxième roman vient de sortir, ça s'appelle Défaite des maîtres et possesseurs aux éditions du Seuil, et vous êtes notre invité, Vincent Message.
Le Book Club, votre rendez-vous avec l'actualité littéraire sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Le Book Club, votre rendez-vous avec l'actualité littéraire avec Philippe Robichon et Wissem Satouri sur Beurre FM.
Et l'invité du Book Club ce week-end, c'est Vincent Message. Votre livre s'appelle « Défaite des maîtres et possesseurs » aux éditions du Seuil. Quel rapport avec le discours de la méthode de Descartes ?
Le titre en est effectivement tiré. Dans ce discours de la méthode, Descartes dit que grâce au progrès technique, on pourrait devenir comme maître et possesseur de la nature. Il y voit quelque chose de très positif. Il parle des progrès des sciences, des progrès de la médecine qui vont améliorer le confort des vies humaines. Donc nous, on est très clairement héritiers de ça et on en profite tous les jours de ces avancées techniques et scientifiques. Et en même temps, si je parle de défaite des maîtres et possesseurs, c'est parce qu'à mon sens, on entre dans une nouvelle ère. On a besoin de critiquer notre rapport à la science et à la technique parce qu'il est en train de se retourner contre nous jusqu'à menacer le caractère vivable de notre environnement, de nos villes, etc.
Mais est-ce qu'il n'est pas, au contraire, en train de basculer vers la sauvegarde des espèces, la sauvegarde de la vie, la prolongation de la durée de vie, de l'espérance de vie, des habitats écologiques, des énergies renouvelables? Est-ce que l'humanité n'est pas en train de prendre ce tournant? Parce qu'il est quand même catastrophiste, votre livre.
Oui, il est catastrophiste en partie, mais au sens où les livres qui sont qui se projettent comme ça dans un avenir indéterminé fonctionnent souvent comme des exorcismes, c'est-à-dire ils alertent sur certains dangers pour essayer de les éviter. Je suis d'accord avec vous, il y a plusieurs tendances qui s'affrontent. Le succès, par exemple, relatif de la COP21 peut laisser l'espoir de certains d'un certain virage.
Plus que ça, aujourd'hui, dans notre rapport aux énergies renouvelables, on a même des HLM qui sont construits sur la base du développement durable, je veux dire.
Il en reste pas moins que on était 1,5 milliard en 1900. Ouais. On est 7 milliards aujourd'hui. On prévoit 10 milliards pour 2050. Toute la classe, tous les Chinois, les Indiens, les Indonésiens, les Africains veulent de manière absolument légitime accéder au mode de vie occidental et à notre niveau de richesse. Et on sait que ce niveau de richesse est insoutenable pour la planète. Donc en fait, on est forcé de se limiter dans une direction ou l'autre. Soit on est nombreux et à ce moment-là, on est sobre. Mais ça, il faut qu'on apprenne parce qu'on ne sait pas être sobre aujourd'hui dans notre monde. Soit on est moins nombreux et à ce moment-là, on peut se permettre d'être un peu plus gourmand en termes de consommation de ressources et d'énergie. Donc le combat, il se mène aujourd'hui. Et à mon sens, c'est moins un roman catastrophiste qu'un roman de combat, c'est-à-dire qui alerte sur le danger pour qu'on s'y prépare. Il y a des progrès technologiques qui sont évidemment porteurs d'espoir et intéressants, mais une partie de l'été en Indonésie, par exemple. La déforestation en Indonésie, les feux de forêt, la disparition des espèces qui sont liées
pour
la culture de l'huile de palme.
Par exemple, il n'y a jamais eu autant de forêts, par exemple, en France ou en Allemagne.
D'accord. Oui, mais au niveau mondial, on en perd.
Ouais. Donc, moi, surtout cet été en Indonésie, il y a eu des feux.
Oui, c'est vrai que c'est incontrôlable.
Incontrôlable parce que pour des questions de culture, en fait. Hein, c'est des procédés de culture qui, ancestraux qui font et qui leur ont échappé.
Oui, mais enfin, l'ampleur n'est pas du tout la même et c'est en particulier lié à une industrie qui est celle de l'huile de palme et qui se porte malheureusement encore très bien, même si on commence à alerter sur les dangers.
C'est vrai. Mais c'est peut-être une éducation. Moi, quand je vois une étude américaine récemment qui disait qu'il suffirait de ne pas manger de la viande une fois par semaine pour que ça soit plus favorable à l'environnement que de remplacer toutes les voitures aux États-Unis par des Toyota hybrides. Par exemple, cette question-là, ne pas manger une fois par semaine de la viande, ou passer à un mode, je sais pas, même les toilettes, passer à des toilettes au compost, tout ça, tout le monde peut le faire.
Sauf que les habitudes sont bien ancrées.
C'est ça. C'est
plus de l'éducation, j'ai envie de dire.
Bien sûr. Mais la littérature, elle participe des changements graduels de mentalité. Ça se fait pas en un jour, ça se fait de manière très progressive. Une des choses qui est claire dans le livre, c'est que le problème écologique principal dont je parle, c'est notre exploitation des animaux. Et donc, c'est l'élevage industriel. Et ça, en France, on a un inconscient rural qui fait qu'on vit encore sur des images de petites fermes toutes gentilles, d'Épinal, etc. Alors que nos fermes réelles sont des endroits où les animaux ne voient pas la lumière du jour, sont élevés de manière concentrationnaire et sont ensuite abattus à très très grande échelle. Et donc,
et ça, pour qu'on le comprenne dans le livre, vous le faites vivre à des hommes. Puisque là, ce sont des fermes qui vont élever des hommes pour les manger. Ouais.
Malo, mon héros, a été quelques années inspecteur d'élevage et d'abattoir. Et qui sont des élevages et des abattages où sont élevés des humains. Donc j'imagine ces scènes. Évidemment, ça a quelque chose de très violent, mais j'essaie aussi d'y mettre une certaine dose d'ironie, d'humour noir, pour que ce reste une violence soutenable. Et le problème écologique derrière, c'est que l'élevage industriel, c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un secteur énorme et auquel on pense peut-être moins spontanément quand on parle de la transition écologique que au transport ou
c'est
au
vrai.
Logement.
J'ai une question pour vous, une question à 10 points. Combien de kilos de blé faut-il pour faire un kilo de steak?
Ça, je sais pas, mais je sais que un kilo de bœuf, je crois que
c'est 16 kilos de céréales.
Oui.
16 kilos pour faire un kilo de bœuf.
En fait, c'est pas du tout. Et l'usage de l'eau aussi. D'eau. On dépense énormément d'eau pour, en particulier, l'industrie du bœuf. C'est quoi l'idée? C'est que dans les pays qui sont très peuplés, traditionnellement, on était végétarien. Ouais. D'ailleurs, les grandes civilisations avaient des équilibres végétariens. Ouais. Au Maghreb, le couscous,
la viande
est tardive. La base, c'est légumes, semoule de blé et pois chiches. Pois chiches parce que c'est des légumes secs et que ça apporte d'autres
protéines.
Du calcium. Chez les Mayas, c'était haricots rouges, maïs, blé. Donc, en fait, il y avait des équilibres comme ça sociaux et alimentaires. Et la production de viande est une espèce d'anomalie de l'ère industrielle qui a complètement fait sortir de ces équilibres. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut remettre en cause assez sérieusement aujourd'hui.
Quand l'homme a commencé à se mettre debout, il a commencé à chasser quand même.
Oui.
Il n'a pas été cultiver des céréales.
Non, il a fait les deux parce qu'il avait besoin des deux. Mais
il a cultivé les céréales après.
On parlait de quelques centaines de millions d'hommes.
Non, il a été chasseur-cueilleur d'abord.
Il a d'abord été chasseur.
Chasseur-cueilleur.
Parce que je vois dans votre livre, moi j'ai rien contre les céréales. Vous voulez nous faire remanger des céréales, mais bon.
Ouais. Non, c'est juste qu'on est aujourd'hui.
Côte de bœuf, c'est bon.
Philippe, on est devenus des super prédateurs des espèces.
Non, c'est vrai.
Je vous dis 65 milliards d'animaux terrestres par an. C'est des chiffres, c'est même inconcevable en fait quand on les entend.
Et après, il y a les conditions dans lesquelles ça se passe aussi.
Par ailleurs.
En plus de reste. Il y a une question sur le pouvoir. Beaucoup d'acteurs de votre livre sont des gens qui voulaient changer le monde. Hein. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le pouvoir les a plus changés qu'ils n'ont changé le monde. Comment vous expliquez que des gens, finalement, puisque Wissem parlait de ce livre de gauche, qui au début veulent tout changer, au final, à partir du moment où ils arrivent au pouvoir, ils se laissent rattraper par le pouvoir et ils ne changent rien?
Parce que je pense que c'est très complexe d'exercer le pouvoir, en fait. Et c'est un des thèmes du livre, effectivement. Ce Maloclès, mon narrateur, il est dans une ascension progressive. Au début, il est donc inspecteur de ses élevages. Ensuite, il entre dans un comité d'éthique qui est au service d'un ministère et où il propose des réformes. Il les propose et ensuite elles sont discutées dans le cadre du Parlement. Mais quand vous êtes politique, vous devez tisser des intérêts contradictoires. Et ça devient très vite complexe de savoir quelle est la bonne décision à prendre, quels sont les bons équilibres à trouver. Moi, je peux, dans ce roman, dénoncer et tirer à boulet rouge sur l'industrie de l'élevage telle qu'elle existe actuellement en France. C'est plus compliqué pour Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, parce qu'il sait qu'il y a plein d'emplois derrière et qu'il y a des habitudes solidement ancrées et des lobbies qui sont financièrement très puissants.
D'accord, mais on peut imaginer d'autres moyens de production. Pourquoi est-ce que quand on change toujours du côté du mal et jamais du côté du bien? Mais c'est ça le problème. La question, c'est que finalement, ces hommes qui viennent sur notre planète, finalement, ils étaient assez contre nous. Et puis, après quelques années, après deux générations, on se rend compte qu'ils deviennent comme nous.
Ben, j'essaye de montrer
qu'ils changent pas le monde, en fait. Ils pourraient faire que ça aille mieux. Eh bien, non, ils deviennent comme nous.
Ils retombent dans nos vieux travers, effectivement. Ils ont quelque chose de mimétique par rapport à nos habitudes. Et la domination les corrompt, tout comme elles nous corrompt. Mais ça, je crois que c'est quelque chose d'assez, malheureusement,
humain, en fait.
Réel, oui, humain. C'est, quand on connaît le degré absolument criant des inégalités dans notre monde, quand on sait que, voilà, il y a 1% des gens qui possèdent autant que le reste de la planète, ces gens-là, au bout d'un moment, sont assez éloignés des réalités ordinaires. Et peuvent avoir le sentiment, et c'est pour ça que la métaphore de l'arrivée d'une autre espèce m'intéresse, qu'ils n'appartiennent plus à la même humanité que nous. Et je pense que le pouvoir fait ça à certaines personnes. Il crée cette distance énorme. Et c'est pour ça que les politiques essayent toujours de se raccorder au terrain, de dire nous devons rester sur le terrain, nous devons voir le terrain. Mais la manière dont ils ont organisé leur mode de vie, leur emploi du temps, etc., leur permet pas forcément d'avoir encore... ce contact avec les problèmes de la vie ordinaire. Donc ce danger-là, c'est vraiment quelque chose à quoi il faut réfléchir. Il est notamment lié aux médias, il est notamment lié au fait que les politiques doivent tout le temps être en représentation, en communication, et que donc tout acte qui n'est pas médiatisé pour eux est un acte qui est de l'ordre de la perte de temps. Passer du temps avec des gens dans leur ville ou lire un livre, etc. Tout ça, c'est ils peuvent le considérer comme de la perte de temps.
Ils l'amortissent pas, en fait.
Filmé, si c'est pas médiatisé. Je crois que ça, c'est un vrai danger qui complique encore l'exercice du pouvoir.
Oui. Mais qu'est-ce qui peut changer la façon dont nous vivons, c'est ça? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut nous amener à vivre différemment? Puisque la prise de conscience, c'est vrai qu'elle y est, on en parle beaucoup plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire, bon, voilà, on est arrivé à un seuil, il faut vivre différemment?
Oh ben, je crois que chacun peut faire sa petite part pour impulser ce changement. Moi, comme je suis romancier, je le fais avec les armes de la fiction, c'est avec une fiction qui nous incite assez fortement à une réforme de nos conduites et donc de notre rapport aux animaux, aux dominés, à l'environnement. Mais il y a plein d'initiatives et je pense d'ailleurs que le rôle des médias devrait être d'attirer plus l'attention sur ces initiatives. Je crois que c'est le cas d'un film que j'ai pas encore vu mais dont on me dit beaucoup de bien, Demain, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui précisément donne un peu plus d'écho à des changements dont vous parlez et qui sont nécessaires aujourd'hui si on veut pas aller vers l'effondrement de notre système de production et de consommation qui s'annonce quand même pour d'ici quelques décennies si on continue tout droit.
En tout cas, on est arrivé certainement au bout de quelque chose dans la façon dont on vit.
Il me semble que notre génération a cette très lourde tâche d'organiser une transition. Et si on n'y réussit pas, la Terre deviendra assez invivable pour nous. Si on réussit, transition démographique et transition dans notre mode de production à l'échelle mondiale, hein, je parle, on aura vraiment fait un très grand pas en avant.
Donc, c'est le défi. Restera à coloniser notre planète.
Bien. Qu'est-ce que Vincent Message vous arrivez à dire dans un roman que vous n'auriez pas pu dire dans un essai ou dans un livre avec Edgar Morin?
Alors d'abord, moi je pratique les deux formes d'écriture. J'écris aussi des essais. J'ai écrit un essai sur le multiculturalisme et la gestion du pluralisme religieux, etc. dans nos sociétés, où je parle d'un certain nombre de romanciers qui est paru au Seuil aussi il y a 2 ans, romancier pluraliste. Donc l'écriture de l'essai, c'est quelque chose que je connais et que j'aime aussi. La fiction, elle a quand même un pouvoir de condensation des problèmes. Je garde de notre société seulement quelques traits. Les traits qui m'intéressent. Je ne suis pas tributaire de tout le réel qui va avec et qui peut être un peu pesant à détailler. Et je les condense dans cette société où sont transposées nos grandes problématiques politiques, écologiques, etc. Donc ce pouvoir de transposition m'intéresse. Et par ailleurs, la fiction, c'est aussi un piège.
Mais c'est plus exigeant. Agréable. C'est beaucoup plus exigeant pour un lecteur de rentrer dans une fiction.
Bah non, c'est l'inverse. Il y a quand même beaucoup plus de gens qui lisent la fiction que des sciences humaines.
Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Non,
on est quand même dans une inversion.
Ouais.
Bah, ça dépend.
C'est plus exigeant de rentrer dans une histoire fictionnelle.
C'est votre point de vue, mais personnellement,
je suis pas d'accord avec ça.
Bah non, j'ai vraiment l'impression que quand on voit comment se porte le secteur des sciences humaines dans l'édition, on peut vraiment avoir le sentiment que la fiction est plus facile d'accès. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la fiction? Vous avez la joie du divertissement, de la découverte du fonctionnement de l'imaginaire, de la découverte d'un univers autre. Et qui peut quand même être mêlé à de la réflexion. Et moi, dans la fiction, j'essaie vraiment de tenir action et divertissement et réflexion ensemble. Et je crois que c'est possible. Dans l'essai, il peut y avoir quelque chose de plus analytique, cérébral, etc., qui fait que on n'a pas toujours envie de baigner là-dedans quand on rentre le soir.
Vincent Message, l'invité du Book Club, c'est la première fois qu'on le reçoit. Wissem, votre livre s'appelle « Défaite des maîtres et possesseurs » aux éditions du Seuil. Vous parlez aussi bien que votre livre est écrit. Ça fait du bien.
Ouais, très belle lettre, très belle carrière.
Merci d'avoir été avec nous sur Beurre FM.
Merci beaucoup.
Le Book Club, votre rendez-vous avec l'actualité littéraire sur Beurre FM. Sur Beurre FM.